Aujourd'hui, peut-être, c'est une bonne devise pour chacun de nous de penser que aujourd'hui, peut-être, nous allons retrouver notre Créateur, que nous allons soit périr physiquement. Un accident, c'est si vite arrivé et on l'a malheureusement vécu ensemble il y a quelques années où un de nos jeunes frères est mort d'un jour à l'autre en se noyant par accident. Ou alors ce sera le retour du Seigneur. Ce qui est surprenant en cette année 2012, c'est que si la Bible annonce que les temps tels que nous les connaissons vont se terminer un jour, que l'Église, c'est-à-dire l'ensemble des enfants de Jésus, ceux qui l'ont reconnu comme leur maître et leur Seigneur, ces enfants vont être enlevés. C'est l'enlèvement de l'Église dont parle la parole de Dieu. Et ce qui est surprenant, je le disais, c'est qu'en fait, si on sait que les chrétiens parlent de ça depuis longtemps, on a maintenant dans l'actualité le fait que d'autres religions, même des religions païennes, disent que la fin est proche. Non seulement elles disent que la fin est proche, mais certaines prédisent cette fin pour l'année 2012. Vous avez sans doute, maintenant ça fait vendre les magazines, entendu parler du calendrier maya. Les mayas, c'est un peuple antique de l'Amérique du Sud et qui prédisent que la fin du monde, ça va être le 21 décembre 2012. Alors c'est pour eux, c'est une fin cyclique. Il y a une fin, il y aura un nouveau départ. Mais ils parlent, par leurs prophètes, de conflits sur la terre qui vont se développer, qui vont ainsi mener à de nouveaux hommes, et qu'il va y avoir le retour de leur dieu, un dragon, un serpent volant dans les airs. Ça, c'est les mayas dont vous allez entendre sans doute beaucoup parler. Et j'imagine qu'à l'approche de cette date, le 21 décembre 2012, on continuera d'acheter des cadeaux de Noël pour le 24 ou le 25, mais les journaux vont se faire beaucoup d'argent en expliquant les choses, en monnayant les peurs de chacun. Et puis, c'est pas seulement les Mayas, les Aztèques. Alors, quelle est la différence entre les Aztèques et les Mayas? Je vous demanderai d'aller auprès de nos amis d'Amérique du Sud, comme Maurice, qui pourra sans doute vous l'expliquer, peut-être pas. Mais eux aussi, ils ont un dieu serpent, et leur calendrier s'arrête aussi en 2012. Ouh. Et puis, il y a les Hindous. Eux, ils prédisent la fin du Kali Yuga. Alors ça, vous n'avez peut-être pas entendu l'expression, mais je suis sûr qu'avec la fin de l'année, la 2012, on va entendre parler de la fin du Kali Yuga, qui est l'âge des ténèbres. Et ça se passera aussi à la même période, fin 2012. En Chine, on parle de la Chine comme étant la grande économie du monde, l'économie montante, et c'est vrai, c'est un peuple nombreux et puissant. Mais l'économie de la Chine n'est toujours pas, est loin derrière celle des États-Unis notamment. Mais ils ont un livre qu'ils appellent le Yi Jing, qui est le livre des transformations. C'est une espèce de code divinatoire qui lui aussi prédit la fin pour 2012. Et puis vous avez entendu parler de la Kabbale. Sans doute parce que Madonna l'a rendue populaire. C'est une collection de livres et de croyances mystiques dans le judaïsme qui date du XIIIe siècle en Espagne. Et dans cette cabale, ce mouvement un peu secret, il y a ce qu'on appelle le Sefer HaZohar, ou le livre de la splendeur, la Zohar. Vous allez entendre parler de la Zohar de la Kabbale, qui pense aussi qu'il y a un Messie qui va revenir à cette période de 2012. Et ils disent que tous les rois de la terre vont s'assembler dans la grande cité de Rome. Et le Tout-Puissant enverra de l'orage, des grêles, et tous ses armées seront, ses rois seront détruits. Et le Messie va se déclarer à ce moment-là. Alors, on entend parler de tous ces Messies. Est-ce qu'il s'agit du vrai Messie dont parlent les chrétiens? Non, je crois que la Bible nous parle aussi de l'Antéchrist, qui va venir avec tous les pouvoirs de Satan et qui sera capable, si c'était possible, de tromper les élus. Et lorsqu'il est fait référence aux élus dans les textes apocalyptiques, c'est souvent le peuple juif, pas nécessairement les chrétiens. Beaucoup d'incertitudes, beaucoup de paroles qui sont censées mettre la peur et l'inquiétude dans les cœurs. Mais comme je le dis, j'aime bien le répéter parce qu'en français ça rime, l'incertitude plus exactement, ça ne veut pas dire l'inquiétude. Ça ne doit pas vouloir dire l'inquiétude pour le vrai chrétien. Si vous êtes sauvé, si vous avez reçu Jésus comme votre Seigneur, comme votre Sauveur, vous n'avez absolument rien à craindre. Alors, c'est pas une méthode couée, c'est pas qui dit on dit que tout va aller bien et comme ça tout ira bien. Et puis même si ça va pas bien à la fin du fin, en attendant ça sera plutôt passé bien puisqu'on aura été optimiste. Non, c'est basé sur la parole de Dieu. Je sais pas si vous avez entendu, on en a parlé, mais le fondateur, l'homme que Dieu a utilisé dans les années 60-70 pour lancer le mouvement de Jésus en Californie, où des hippies sont venus à Dieu, à Jésus, à la Bible. Cet homme, c'est Chuck Smith, qui est le pasteur de Calvary Chapel Costa Mesa, la première des Calvary Chapel, qui a donc lancé ce mouvement. Il vient de découvrir qu'il avait le cancer des poumons, un cancer aux poumons. Il a 84 ans et il continue de prêcher trois fois tous les dimanches. Il continue d'annoncer la bonne nouvelle par tous les moyens. À la suite de son appel, près de 1400 églises ont été fondées dans le monde entier. En France, nous sommes pour le moment trois avec une église au Luxembourg, Nice, Paris, maintenant Lyon, peut-être bientôt Chambéry, on ne sait pas. Mais il a eu une grande influence dans le monde, mais ça... Il a donné un entretien qui est disponible sur le net. Si ça vous intéresse, je pourrais vous donner les références. Un entretien dans lequel on lui demandait quel était le secret de sa réussite, entre guillemets. Et beaucoup de pasteurs ou de mouvements cherchent la réussite, c'est-à-dire à grandir, à avoir beaucoup d'influence. Et pour ça, ils essayent de trouver des méthodes de croissance de l'Église. Et j'aime à dire souvent que mes enfants étaient tout petits quand ils sont nés. Maintenant, ce sont des grands gaillards, le plus jeune et le plus grand, en taille. Et j'aime à dire qu'en fait, jamais... Il nous est venu à l'idée de leur mettre des poids aux pieds pour que leurs membres grandissent plus vite. Non, on les a bien nourris, on les a aimés et on les a nourris avec de la bonne nourriture. Peut-être que les hormones qu'on trouve dans la nourriture expliquent qu'ils soient si grands aujourd'hui. Mais on n'a pas cherché à les faire grandir artificiellement. Et de la même façon... Chuck Smith dit qu'il n'a pas de secret. Le secret, c'est la parole de Dieu. Parce que dans un des psaumes, je crois que c'est le psaume 138 au verset 2, il est dit « Tu as magnifié ta parole au-dessus de ton nom ». La parole de Dieu, c'est quelque chose de tout puissant. Lorsque je sentis un appel pour venir en France, un verset qui m'a interpellé, parce que je savais bien que la France est un pays dur à l'Évangile, qui pense parce qu'il a eu une influence chrétienne, notamment catholique, pendant des siècles, qui n'a mené à pas grand-chose, qu'on peut rejeter l'Évangile. Mais dans Jérémie 23, 29, il est dit, parole de l'Éternel, ma parole n'est-elle pas comme un feu et comme un marteau qui fait éclater le roc? Et pour moi, c'était un peu la raison ou l'espoir que j'ai eu en venant en France, c'est d'annoncer la parole, de faire que la parole soit étudiée, la parole soit lue, mémorisée, mais surtout mise en pratique, et qu'avec cette parole, cette parole puisse faire son œuvre salutaire. Elle est comme du feu, elle est comme un marteau-piqueur qui peut faire craquer le cœur endurci des Français. Et cette parole, c'est pour Chuck Smith, c'est le secret de la croissance de l'Église. Dieu l'a destinée ainsi, c'est la semence qui pousse. Vous vous souvenez de cette parabole de la semence jetée en terre qui tombe soit sur le chemin où les oiseaux viennent la chercher, soit dans les ronces où les soucis de la vie l'empêchent de donner du fruit, soit dans des endroits où il y a un petit peu de terre mais peu de profondeur, soit dans du bon sol et elle peut donner jusqu'à 100 fois son retour. D'où l'importance que nous accordons à la parole de Dieu dans l'étude systématique de la Bible, dans les études bibliques que nous faisons, dans l'encouragement qu'on vous donne à connaître et à lire la parole. Cette année, on va sans doute vous encourager à lire beaucoup plus de la parole que vous ne l'avez jamais fait. Alors c'est à vous de voir, c'est à vous de décider si vous pensez que c'est du temps bien utilisé que de lire la Bible de façon intense. C'est bien d'avoir un calendrier avec un verset chaque matin qu'on peut lire, mais c'est un peu comme si pour vous nourrir, vous preniez quelques cacahuètes le matin et que vous continuiez toute la journée, toute la semaine, sans avoir pris un bon repas. Ça fait du bien sur le moment, mais ce n'est pas ça qui va vous faire grandir, ce n'est pas ça qui va vous nourrir en profondeur. On va sans doute vous encourager à lire beaucoup plus, jusqu'à 20 ou 30 chapitres par semaine. Oh, c'est pas possible. Mais je sais qu'on peut lire des tas de choses sur le net, on peut lire des journaux, on peut lire les journaux gratuits, puis si on en trouve deux ou trois, hein, il y a 20 minutes, il y a Direct Matin, et puis Métro, si on peut, bon, on va les regarder tous les trois. En fait, je me parle à moi-même, je dois passer beaucoup plus de temps que je ne le fais dans la parole. Et la parole nous explique qu'il va y avoir un antéchrist qui va revenir à la fin des temps, un personnage qui va sembler être en mesure de régler les problèmes du monde. Et Dieu sait, sans jeu de mots ou sans utiliser une expression gratuite, Dieu sait combien nous avons de problèmes dans le monde. Peut-être que nous n'en avons pas plus que par le passé. La Bible dit que si. Alors certains disent, c'est parce que maintenant il y a les moyens de communication qui font que dès qu'il y a un papillon qui vole en Patagonie, il fait des remous jusqu'en Scandinavie, par Internet, par les moyens de communication modernes. Mais cet homme va être en mesure de régler les problèmes économiques qui sont la grande préoccupation du moment. Et il va établir une période de paix. Et il va finir par vouloir se faire adorer dans le temple à Jérusalem, le temple reconstruit. Mais regardons dans Matthieu 24, nous allons regarder juste quelques passages. Dans Matthieu 24, versets 1 et 2, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. C'était un édifice formidable. À l'époque, c'était un des plus beaux édifices dans le monde. Et sans aucun doute, ils étaient fiers d'avoir cet édifice dans la capitale de Jérusalem. Mais il leur répondit, verset 2, « Voyez-vous tout cela ? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Cette prophétie, elle a eu un premier accomplissement, comme souvent les prophéties sont accomplies ou réalisées en plusieurs étapes ou plusieurs calendriers. Un peu comme lorsque l'on voit les montagnes, on peut voir des montagnes qui sont au premier plan, on voit des montagnes qui sont en arrière-plan. Souvent les prophéties ont une réalisation immédiate ou quasi immédiate, une réalisation future et une réalisation à la fin des temps. Mais cette prophétie de Jésus qui devait sembler complètement folle pour les disciples, qui voyaient cet édifice si solide, si beau, qui avait pris tant de temps à être construit, qui avait été retapé ou fini par Hérode, il ne pouvait pas imaginer que tout ça serait cassé, qu'il y aurait pierre sur pierre. Un peu comme nous, un certain 9 septembre 2001, où si nous avait dit que le soir même, les tours de Manhattan seraient rasées, on aurait été dans l'incapacité totale de le croire. Mais la réalité dépasse la fiction. Et dans ce cas-là, dans le cas de Jésus, quelques dizaines d'années plus tard, en l'an 70, les troupes romaines menées par le général Titus, envoyées par l'empereur Vespasien, ont attaqué Jérusalem. Et les feux, les incendies qui se sont déclarés ont fait que l'or du temple, l'or des ustensiles, a fondu et qu'il s'est inséré entre les interstices, entre les pierres, et du fait de cet or qui était à récupérer, les soldats romains ont renversé tout le temple, ont détruit le temple pour arriver jusqu'à l'or, et cette prophétie a été réalisée, pas une pierre n'est restée sur une pierre. Tout a été renversé. Verset 3, « Il s'assit sur le mont des Oliviers et les disciples vinrent en privé lui dire, « Dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. » Est-ce que ce sera le calendrier Maya? Est-ce que ce sera la perte du triple A par le gouvernement français ? Pour emprunter de l'argent à taux intéressant. Jésus leur répond, verset 4, « Prenez garde que personne ne vous séduise, que personne ne vous trompe. Car plusieurs viendront sous mon nom en disant, « C'est moi qui suis le Christ », autrement dit, « Moi qui suis le Messie ». Et ils séduiront, ils tromperont donc beaucoup de gens. Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation et un royaume contre un autre royaume. Il n'y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ne pas se laisser tromper par toutes ces faux prophètes, ces religions qui nous disent que la fin du monde est pour le 21 décembre 2012. Une prophétie répétée systématiquement dans la parole, c'est que Jésus va venir chercher son Église avant que ne commence cette période de douleur qui est appelée des fois la grande tribulation. On peut sauter et aller au verset 23. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils opéreront de grands signes et des prodiges au point de séduire, si possible, même les élus. Je vous l'ai prédit. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas, voici il est dans les chambres, ne le croyez pas, en effet, comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. C'est ainsi que c'est décrit par Jésus. Dans un autre passage, Paul nous parle dans 1 Corinthiens 15, si vous voulez regarder, 1 Corinthiens 15, 52. Voici que je vous dis, verset 51, un mystère. Quelque chose qui n'était pas connu auparavant et qui est maintenant révélé. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car elle sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. Cette idée d'un enlèvement soudain, et je l'ai souvent répété, on n'a pas à attendre de signes avant d'être enlevé par le Seigneur. Tout est en place. La grande tribulation, dans la façon dont nous voyons les choses, arrivera après, mais l'Église, c'est-à-dire vous et moi, si nous sommes des chrétiens authentiques, c'est-à-dire que nous avons vraiment reconnu en Jésus notre Maître et notre Sauveur, et que nous faisons tous nos efforts pour vivre une vie qui lui plaît, alors nous aurons été enlevés. On verra ça en étudiant l'Apocalypse. Et nous le verrons face à face. Ça, c'est 1 Corinthiens 13, 12. Nous ne savons pas comment il est exactement. Nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière confuse, mais alors nous verrons face à face. Nous connaissons partiellement, ou je connais partiellement, mais alors je le connaîtrai comme j'ai été connu. Ça, c'est 1 Corinthiens 13, verset 12. Et donc, si cet enlèvement est soudain, qu'est-ce que nous devons faire? Jésus nous dit au verset 36 du chapitre 24 de Matthieu, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, même pas les calendriers mayens, aztèques, zoariques, etc. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme, c'est-à-dire au retour de Jésus. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. de deux femmes qui mouteront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » La conclusion, si c'est quelque chose qui va arriver de façon soudaine, c'est de veiller. Sachez-le bien, verset 43, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Est-ce qu'il y en a qui pensent sérieusement que Jésus va arriver d'ici midi? Il y en a qui le pensent? Ce n'est pas un piège, hein, c'est un sondage. Est-ce que vous pensez qu'il va arriver avant la fin du mois de janvier? On a du mal à y croire. Hein. En plus, on a des projets, on veut pas rater. On a prévu de partir en vacances en mois de mai, on voudrait... Arrive après, ou peut-être il y a un mariage qui est prévu. Ah ben non, Seigneur, attends que je sois marié pour revenir. Mais si vous ne savez, si vous n'y pensez pas, c'est précisément, entre guillemets bien sûr, puisque nous on voit qu'on a un grand doute quant à un retour soudain ou proche. Tenez-vous prêt, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc si vous dites « c'est sans doute pas maintenant », c'est peut-être précisément à ce moment-là. Alors tout ça, ce n'est pas pour être complètement parano, mais pour nous faire vivre dans l'attente, dans la sainteté. C'est la bienheureuse espérance dans ce retour dont parle Tite, qui a le mérite de nous conduire à une vie saine, à une vie sainte. L'idée que c'est comme un voleur qui va revenir arracher quelque chose, ça nous incite, ça nous conduit à penser que c'est quelque chose de précieux qui va être arraché de la terre au moment de cet enlèvement de l'Église. Et cette chose précieuse, c'est vous et c'est moi, ce sont les croyants qui seront vivants à ce moment-là. Nous sommes précieux parce que nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Que nous le voulions ou non, que nous nous en sentions dignes ou non, nous sommes la lumière du monde et la grande tribulation pendant 7 ans, ça va être très sombre. Cet homme charismatique, au sens où il aura beaucoup de persuasion, beaucoup de conviction, il sera probablement attractif ou attrayant physiquement, jeune, dynamique, capable dans bien des domaines humains. Il va s'élever à une position de chef du monde. Mais à la fin de ces 7 ans, Jésus revient et nous le suivons, nous revenons avec lui pour régner sur la terre. Alors vous pensiez peut-être que le paradis, c'était tranquille, c'était la robe blanche, la harpe avec la méthode automatique pour jouer de la musique assis au bord d'un nuage. Non, ça c'est une image caricaturale complètement fausse. Nous allons être occupés, nous allons avoir une éternité d'adoration de Dieu, mais ce règne pendant 1000 ans, c'est ce que la Bible enseigne, va faire que nous régnerons avec lui. Et donc, la Bible nous donne beaucoup de renseignements sur ce qui va se passer. Elle nous encourage donc à exercer du discernement sur ce qui se passe. Nous n'avons pas encore une fois à nous inquiéter. Et ce qui est formidable, remarquable avec Chuck Smith, c'est que dans cet entretien dont je vous ai parlé, le pasteur qui lui donne cette interview lui demande... Maintenant, avec ce danger, ce cancer qui peut être fatal, est-ce que tu éprouves de l'inquiétude ? Et je crois qu'il est sincère, il dit « Non, j'ai aucune inquiétude. Soit le Seigneur me guérit parce qu'il veut que je reste encore ici et je serai heureux de le servir ici-bas, soit le cancer m'emporte et je serai avec lui. » Et comme le disait Paul dans Philippiens, « Mieux vaut être avec lui que de rester ici-bas. » Alors c'est vrai qu'on se fait du souci pour les êtres chers qui devront vivre un deuil, et c'est pas la joie, c'est triste, et on peut comprendre qu'on ne veuille pas faire cette peine. Mais franchement, si la parole est authentique, être avec Dieu, c'est de loin supérieur à la meilleure des situations que vous puissiez imaginer sur terre. J'aime bien la pêche à la truite en montagne. Pour moi, la plus belle chose, c'est de se retrouver à faire de la pêche à la mouche sur un lac de montagne, entouré par la nature du Créateur. Et quelque part, je me dis, mais j'ai pas besoin vraiment d'un paradis, Seigneur, tu me laisses là. Ça me suffira. Mais c'est un manque de foi, c'est un manque d'envergure de ma foi, parce que ce qui nous attend va tellement surpasser les choses qui nous attirent ici. Peut-être certains disent que, oui, mais le mariage, c'est formidable. Alléluia, c'est formidable. Avoir une relation d'intimité avec une personne qui vous aime de l'autre sexe, c'est une chose merveilleuse. Mais en fait, quand on réalise que nous allons être l'épouse de Christ, nous allons venir faire sur la terre une lune de miel de 1000 ans. Des fois, on fait des économies et on dépense beaucoup d'argent pour aller passer une semaine, ou si on a un peu plus de ressources, 15 jours, peut-être un mois de lune de miel dans un cadre paradisiaque. Là, nous allons régner avec notre époux pendant 1000 ans. Nous n'avons, comme Chuck Smith, aucune inquiétude à nous faire. Nous pouvons nous en remettre à son amour, à sa fidélité. Alors je sais, c'est facile de dire quand on n'a plus de bras cassés, ou que le bras cassé se remet, qu'on n'a pas d'accident, qu'on n'est pas dans la difficulté financière, qu'on ne vient pas d'apprendre une mauvaise nouvelle de santé, de travail, qu'un être cher vous a quitté, ou des choses comme ça. Mais nous pouvons faire confiance à Dieu, lui remettre tout de notre vie, et notre mort, et notre éternité. Les musulmans, c'est un autre groupe qui attend un Messie. Surtout les chiites en Iran, avec le premier ministre Mahmoud Ahmadinejad, attendent que l'islam règne sur le monde. Ils pensent que l'Iran va jouer un grand rôle en cela. Ils attendent le messie chiite qu'on appelle le Mahdi. Il y a plusieurs théories, mais la plus commune, c'est que ce Mahdi serait le 12e imam, et qu'il aurait été arraché à la vue du monde et des gens en l'an 941. Et ils pensent qu'il va, à son retour, régner pendant 7 ans. Coïncidence intéressante. Je ne sais pas si c'est lui l'antéchrist ou s'il va amener la paix sur la terre. Mais dans leur croyance, ce qui va les faire revenir le Mahdi, c'est le chaos. Et Mahmoud Ahmadinejad pense que peut-être l'Iran sera l'instrument utilisé par Dieu pour amener ce chaos. Alors, là encore une fois, c'est un autre sujet d'inquiétude pour 2012. Et nous avons la joie d'avoir des frères et sœurs iraniens en Christ, même parmi nous. Mais c'est qu'est-ce qui va y avoir comme conflagration avec l'Iran? Vous avez entendu parler que l'Iran a dit aux États-Unis qu'ils avaient fait sortir un de leurs porte-avions de la mer du Golfe, le Golfe Persique, que s'ils revenaient, qu'ils allaient bloquer le détroit d'Ormuz, une petite île qui garde l'entrée de cette mer intérieure qui est utilisée pour près de 25% du pétrole, le commerce du pétrole, que qu'ils vont faire un blocus de ce détroit d'Ormuz. L'Angleterre et les États-Unis ont dit que s'ils faisaient ça, ce serait déclaré comme un acte de guerre. Ce qui inquiète beaucoup les Occidentaux, Israël, c'est que depuis des années, on laisse l'Iran s'équiper nucléairement et qu'on sait maintenant qu'ils, malgré le fait qu'ils ont nié cela pendant de nombreuses années, ils sont en train de s'équiper de l'arme nucléaire. Certains pensent que malgré son calme, Israël va suivre la doctrine établie en 81 par Menachem Begin, le premier ministre de l'époque, qui avait dit qu'on ne laissera jamais nos ennemis s'équiper en équipement nucléaire. C'est pour ça que vous vous souvenez de Chirac, lorsqu'il était ministre des armées, premier ministre il y a longtemps. Il avait vendu l'équipement nucléaire à l'Iran. Pardon, pas à l'Iran, à l'Irak. Chirac en Irak. Et que Israël n'avait pas laissé les Irakiens aller jusqu'au bout de leur effort parce que le 7 juin 81, ils avaient bombardé les hangars de l'Irak où ils construisaient l'arme nucléaire dans le projet Osiris en Irak. Et ça, c'était l'opération Babylone. Et beaucoup d'observateurs se disent que même s'il y a des difficultés politiques en Israël en ce moment, qu'il n'y a pas d'unité contre l'Irak ou pour une intervention, il y a un grand danger que ça pète là-bas. Une raison de plus pour avoir peur si on ne connaît pas le Seigneur. Récemment, dans les jours qui viennent de s'écouler, on a entendu parler des tirs de missiles dans les manœuvres iraniennes. Et bien sûr, chacun pense longue portée, ça veut dire qu'on peut taper sur Israël, dont l'Iran a publiquement déclaré qu'il voulait les exterminer, les faire disparaître. Israël s'entraîne aussi à des tirs de longue portée. Lorsqu'on demande à Obama qu'est-ce qu'il pense faire, lorsqu'on demande à Israël, il n'y a pas de réponse, c'est le sujet tabou. Mais on voit que il y a des rumeurs de guerre. L'économie mondiale va mal. Les agences de notation qui déterminent ainsi les taux de crédit que les États peuvent obtenir pour financer leurs dettes. Nous avons pris l'habitude en Occident de dépenser plus que nous recevons. Et c'est pas grave pour les États qui ont une monnaie qu'ils contrôlent, comme les États-Unis ou la Grande-Bretagne, parce que lorsqu'on a une dette, on peut faire marcher la planche à billets et créer des milliers, des millions et des milliards de dollars pour payer la dette. Ça repose sur du vent. Et ça repose sur une position de prépondérance mondiale. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de pays, en ce moment, évitent d'utiliser le dollar maintenant comme monnaie de référence. Il y a des accords la semaine dernière entre la Chine et le Japon pour faire des échanges commerciaux sans passer par le dollar. Si c'est le cas, ça veut dire que les États-Unis aussi vont avoir une dette qui, elle est déjà à 89% de leur produit intérieur brut. Donc 90% pratiquement de ce que produisent les États-Unis sert à rembourser les intérêts des dettes qu'ils ont contractées auprès d'autres pays, souvent des pays du tiers-monde, des pays qui produisent du pétrole. Et on va vraiment vers un chaos. Vous avez entendu parler de la dette grecque. Pour rembourser leur dette, les Grecs doivent 144% de leur produit intérieur brut. Ça veut dire qu'ils ont, ils n'ont pas l'argent pour rembourser. L'Italie, c'est 118%. Les États-Unis, c'est 90%. C'est pour ça que les agences de notation les ont déclassés. Ils n'ont plus un triple A, même s'ils continuent à être la puissance économique la plus forte. Et apparemment, une reprise se dessine là-bas. La France, c'est 84 ou 85%. Tout ce qu'on fait, c'est pour payer les intérêts de la dette qu'on a pris parce qu'on a dépensé plus qu'on avait. C'est inimaginable. Et on reconduit les mêmes personnes, on vit comme si on fait l'autruche, on met la tête dans le sable et on veut conserver nos acquis. On veut les 5 semaines de vacances et on veut travailler que quelques heures par semaine. Et puis pouvoir prendre la RTT. Et on voit pas que ça peut pas perdurer. Ça peut pas continuer comme ça. Mais c'est pas surprenant, c'est ce que nous dit la Bible. La Bible nous dit que dans les temps derniers, il va y avoir un chaos économique, on verra ça en étudiant l'Apocalypse, qui va conduire justement à la nécessité d'un gouvernement mondial, qui est aussi prédit dans la Bible. Alors, on pourrait multiplier les points d'inquiétude et de conversation. Sans être prophète, on ne sait pas si ça va arriver maintenant, si ça va péter à Hormuz ou pas. L'or noir d'Hormuz. On peut faire des titres de romans. Tout ce qu'on peut savoir, c'est que si on connaît Jésus-Christ, on peut être confiant, mais on doit être en alerte. On doit s'attendre à son retour. On doit mener une vie saine. On doit porter du fruit, comme nous l'avons évoqué le soir du Nouvel An, qui était le thème. C'était Jean 15, que Jésus est la vigne et que nous sommes les branches. Que pour porter du fruit, il nous faut demeurer en lui. Demeurer en lui, c'est pas simplement dire qu'on demeure en lui, c'est être en relation intime avec lui, c'est être dans sa parole, c'est connaître sa parole. C'est vivre dans la sainteté. Et cette année, j'ai à cœur de nous encourager tous à être dans la parole de Dieu, mais aussi que ce ne soit pas quelque chose de livresque. On va essayer d'encourager la formation de petites cellules ou de petits groupes sans vouloir utiliser un système qui n'est jamais la panacée. Le système, ce n'est pas la solution. La solution, c'est la parole de Dieu. Ce qui est bon, c'est d'être amené à la lire, à la vivre. Et dans ces groupes, il y a une espèce de relation de vis-à-vis où on peut lire ensemble la parole, se demander où on en est, où on en est dans notre vie, dans notre sainteté, dans notre péché, confesser nos péchés les uns aux autres, c'est biblique, et se laisser guider par Dieu dans ce qu'il veut bâtir, dans ce qu'il veut construire. Je sais que c'est Francis qui a mis en ligne un verset qui s'adresse aux jeunes, notamment dans 2 Chroniques 29, 11, un verset qui avait interpellé mon fils il y a plusieurs années, où il est dit « Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir devant lui à son service, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Vous, les jeunes, les fils et les filles, vous êtes appelés à servir Dieu, à vous tenir devant lui. » Et c'est vraiment notre prière à plusieurs. Nous avons cette vision d'avoir une église qui s'engage, d'avoir des jeunes qui prennent Dieu au sérieux. J'ai un site où j'ai quelques versets en ligne, quelques prédications, et on m'avait demandé de dire quelle était ma vision, pourquoi j'étais venu ici, en France, commencer cette église. Et voilà ce qui se trouve sur Internet. « Je désire de tout mon cœur que la bonne nouvelle de Jésus-Christ soit annoncée aux Français, et particulièrement aux adolescents, aux étudiants, aux jeunes adultes. » Et j'ajoutais que j'ai été élevé en France, mais je suis vraiment devenu chrétien à Seattle, la ville de Nancy, où Dieu m'a fait rencontrer ce mouvement de Calvary Chapel, qui n'est pas le seul mouvement utilisé par Dieu, bien loin s'en faut, mais qui se base sur la parole de Dieu, inspirée par l'Esprit Saint pour la comprendre et la mettre en pratique. Et j'expliquais que j'avais quitté ce que je croyais être un métier passionnant dans l'informatique pour m'engager dans le ministère à temps plein, parce que je priais pour que Dieu suscite un mouvement de Jésus en France, pour que des générations nouvelles se tournent vers Jésus. On nous a menti en France depuis longtemps, en nous faisant croire que le bonheur, c'était de vivre les valeurs républicaines. Vive la République. On le dit, la République présente un grand progrès par rapport à la domination politique de la noblesse ou du roi ou toutes sortes de systèmes politiques qui étouffent, qui enferment l'homme. Mais la République et les valeurs républicaines, elles peuvent être très abstraites et très froides. Le bien qu'elles représentent, c'est le bien qu'elles représentent lorsqu'elles sont en harmonie avec le message chrétien d'amour des autres, de service des autres, d'égalité en droit. Et c'est intéressant de savoir que par réaction contre une fausse représentation du christianisme pendant des siècles, la France s'est laissée emporter par une représentation laïque de la vie et de l'amour. Si Dieu n'est pas à l'œuvre en France, le futur de la France n'est pas beau. Mais ma conviction, c'est que Dieu est à l'œuvre et que tous les espoirs sont permis. Nous avons une raison de vivre. Partager l'amour de Jésus, partager l'évangile autour de nous. Et ça passe par les plus jeunes. Et c'est vrai que c'est souvent délicat, parce que les plus jeunes sont ceux qui ont grandi dans l'Église. C'est pas nouveau pour eux. Ils sont plutôt attirés par la nouveauté de ce qui n'est pas dans l'Église, par le monde, par la drogue, par une vie où on se libère. Et souvent, ces jeunes, on les perd dans l'Église lorsqu'ils sont adolescents. Et ma prière aussi, c'est que parmi nous, il y en ait qui aient un fardeau pour montrer à ces plus jeunes que la vérité, c'est la parole de Dieu, que la vérité se trouve en Jésus-Christ. Voilà, c'est un peu je n'aime pas trop utiliser le mot de vision, mais c'est un peu ce qui est sur mon cœur à l'entrée de cette nouvelle année. Passer du temps dans la parole, mais pas pour en avoir une connaissance livresque, mais pour la vivre, dans la communion fraternelle, se laisser guider par Dieu pour les grands projets qu'il a devant nous. Un autre verset, 29-11, on a lu deux chroniques, c'est Jérémie 29-11. « Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet, oracle de l'Éternel, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Alors vous m'invoquerez et vous pourrez partir, vous intercéderez auprès de moi et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. » Amen.